Le groupe Azalai Hotels, leader régional de l'hôtellerie en Afrique de l'Ouest, vous propose 8 milliards de voisins.
8 milliards de voisins avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 8 milliards de voisins et surtout de voisines aujourd'hui parce que j'ai le plaisir d'accueillir trois femmes pour discuter d'un sujet qui leur tient à cœur, être militante et féministe sur le continent africain. Bonjour Bénédicta Alokenou.
Bonjour, bonjour Emmanuel.
Et merci à vous d'être ici en direct dans le studio de RFI.
Merci, merci pour l'invitation. C'est un réel plaisir pour nous.
Vous êtes béninoise, présidente de la Fondation des Jeunes Amazones pour le développement. Vous animez aussi une plateforme qui s'appelle Lead Elle pour le débat des femmes dans votre pays. Également à vos côtés, Gracias Kibanja-Luko, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes juriste, activiste féministe en République démocratique du Congo, coordonnatrice de Femmes en Action pour la dignité humaine. Et également avec nous, Zita Désirée Bellem, bonjour.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous, Désirée. Vous êtes présidente de l'association Action pour un monde meilleur au Burkina Faso. Merci, vous êtes de passage à Paris, toutes les trois, dans le cadre de l'initiative Féministe en Action, et vous nous en parlerez. Et nous allons bien sûr évoquer vos parcours respectifs, comment et pourquoi vous avez décidé de vous engager pour les droits des femmes dans vos pays, quelles sont aussi les causes les plus urgentes à défendre, les violences sexuelles, l'accès à la justice pour tous, la représentation politique... L'accès des femmes porteuses de handicap aussi à des fonctions publiques. Vous nous direz aussi comment vous êtes perçue dans vos propres communautés si vous subissez des pressions, notamment sur les réseaux sociaux. Et quant à vous, les voisines, et d'ailleurs aussi les voisins, vous avez la parole, quelle que soit votre position sur le sujet. Votre avis nous intéresse. Que vous inspirent ces femmes militantes? Les sociétés en Afrique doivent-elles se mobiliser pour les droits des femmes? Et si oui, dans quelles conditions? Appelez-nous au 33 7 64 45 51 41. Et en fin d'émission, la rubrique Mondo Blog chez les voisins, la communauté des mondo blogueurs et mondo blogueuses. Ils ont la parole chaque semaine chez 8 milliards de voisins. Il sera question de tourisme en Afrique et de funérailles.
8 milliards de voisins,
c'est vraiment quelque chose qui crée la proximité. C'est être ouvert à la rencontre de l'autre sans aucun a priori.
C'est un village mondial, donc on est tous des voisins.
Même si géographiquement on est effectivement dispersés,
on existe ensemble.
Je commence avec vous, Bénédicta Alokenou. Vous venez du Bénin. Dites-nous comment est né votre engagement pour les droits des femmes.
Alors, merci beaucoup. Effectivement, je viens du Bénin. Et qui connaît le Bénin sait que nous avons beaucoup de stéréotypes. Nous avons encore un contexte culturel qui n'est pas vraiment prêt pour les droits des femmes. Et donc, dans ce contexte-là, moi, je viens d'une famille polygame. Mon père, il a trois femmes. Et je peux dire que l'environnement déjà familial m'a, dans un premier temps, prédestiné à m'engager en tant que féministe parce que ma mère, elle a deux filles, ma sœur et moi. Et dans un contexte où, à l'époque et même encore aujourd'hui dans certaines zones, on disait qu'avoir que des filles, c'est un peu mal. C'est comme si tu n'avais rien fait de ta vie. Et être née fille était comme un poids qu'on devait porter. Et dans ce contexte-là, moi, tout de suite, ma mère me disait non, ce n'est pas du tout le cas, malgré ce que les gens, l'entourage disaient. Et ça m'a un peu forgée déjà à m'engager, à voir un peu... Quelles sont ces différences-là dont on parle? Parce que je suis une fille et que ma mère n'a pas d'enfant garçon. C'est quoi en fait le problème? Et en m'interrogeant comme ça, je commençais à développer l'esprit féministe. Et puis à l'école, j'ai commencé également par remarquer ces stéréotypes-là, ces différences-là que la société établissait entre les femmes, entre les garçons.
C'est-à-dire des filles qui partaient pour se marier, par exemple, qui quittaient la classe?
Des filles qui partaient pour se marier, qui abandonnaient les classes, des professeurs qui disaient pourquoi une fille devait être première de classe. Il y avait autant d'inégalités. Et quand j'ai eu l'opportunité de m'engager dans la première association, c'était pour lutter contre le mariage des filles, le mariage de mes sœurs et les grossesses précoces. Parce qu'il y avait aussi beaucoup de camarades qui arrêtaient l'école suite à une grossesse ou qui étaient même renvoyés après des grossesses. Donc, mon engagement féministe est donc né de ce contexte familial-là.
Vous avez commencé comme déléguée de classe, pratiquement,
oui.
Finalement. Vous étiez déjà féministe en même temps.
J'adorais être déléguée de classe. Je n'hésitais pas quand on demandait « Est-ce qu'il y a des gens qui veulent être délégués ?» Je regardais autour de moi, il n'y avait pas de filles. Je dis « Ah bon, mais moi, je veux être déléguée de classe. » Et c'est, ça a commencé comme ça, par me positionner en tant que leader à l'école, par avoir l'esprit critique, l'esprit féministe par rapport aux injustices, aux inégalités. Et l'engagement maintenant associatif est venu après.
Et vous, Désiré Bellem, l'injustice, vous la connaissez. Hein, vous êtes vous-même une femme en situation de handicap. Vous êtes venue en fauteuil roulant. Comment vous avez commencé à militer pour les droits des femmes à partir du handicap? Et comment vous avez pu suivre une scolarité aussi dans votre pays, le Burkina Faso?
Oui, merci pour la parole. Effectivement, je suis une personne en situation de handicap, c'est-à-dire à mobilité réduite. Je suis allée à l'école et comme tout le monde parce que j'ai eu cette chance. Mon papa était de la santé, donc il a vite compris que c'était des séquelles de la poliomyélite.
Que vous avez eu à 5 ans. Hein.
Quand, à l'âge de 5 ans, voilà. J'ai poursuivi mes études. Je suis technicienne supérieure en finance comptabilité et jusque-là, je n'ai pas eu du travail. Alors, j'ai poursuivi mes études. J'ai changé de branche en faisant la gestion de projets. Donc, j'ai fait une licence en gestion des projets et programmes de développement. Toujours pas de boulot.
Toujours pas de boulot parce que vous étiez à mobilité réduite dans un fauteuil roulant.
Oui, parce que je suis à mobilité réduite. Il y a l'accessibilité et il y a l'aménagement raisonnable qu'il faut le faire au niveau des services.
C'est ce qui vous a poussé à devenir militante, à vous faire entendre?
Il faut que je me fasse entendre pour que les gens puissent savoir qu'au-delà du handicap, il y a la personne qui est là. Voilà. Mon engagement.
Est-ce que quand on est une femme à mobilité réduite, porteuse en situation de handicap, que c'est une double peine?
Oui, c'est une double peine, puisque en tant que femme, tu subis tout ce que toutes les femmes subissent. Et en tant que handicap et personne handicapée, il y a la stigmatisation, il y a les préjugés socioculturels qui sont là, qu'il faut surmonter.
C'est-à-dire?
Et c'est-à-dire que
Un mauvais œil?
Oui, un mauvais œil. Et les pesanteurs socioculturels vont te dire que c'est parce que tes parents ont fait quelque chose, alors c'est une sanction, une punition divine, ce qui n'est pas juste.
Bien sûr. Et vous restez avec nous, on va en parler, hein, de comment accéder aussi à la justice pour toutes les femmes. Gracias Kibanja, vous habitez toujours Goma.
Oui,
on connaît la situation sécuritaire de Goma à l'heure actuelle, c'est largement relayé sur les antennes de RFI. Comment vous en êtes arrivée à militer alors que pour les femmes aujourd'hui, la priorité c'est de survivre?
Effectivement, ce qui m'a poussée à être militante, c'est l'environnement dans lequel j'ai grandi. Moi, je suis née dans la guerre, j'ai grandi dans la guerre. Donc pour moi, écouter les fusils, voir les gens mourir et tout est monnaie courante. Et je me suis dit, mais non, on ne devrait pas continuer comme ça. On ne devrait pas vivre comme de bêtes quand même. Nous sommes des humains et nous avons besoin de vivre décemment et d'avoir un avenir meilleur. Aussi, autre chose, c'est que j'ai remarqué que dans les discussions sur les questions de paix, sur les questions de droits humains, il y avait majoritairement que des hommes. Et je me suis dit non, il serait très important que je puisse me mobiliser pour l'activisme. J'ai commencé effectivement en étant en première des humanités pour militer pour que...
À l'université.
Aux humanités, donc au secondaire, pour militer, pour que je sois parmi les gens qui peuvent décider sur les questions des élèves et non pas être seulement parmi les élèves qui vont balayer la classe et tout. Et cela a grandi en moi. Et j'ai eu quand même la chance d'avoir aussi une mère, ma maman, elle a été militante, activiste, et donc j'avais de repères. Et je me suis lancée sur ce chemin-là, mais disant que non, il serait très important qu'en tant que jeune fille, je puisse avoir également une place et parler aussi de questions de droits de l'homme et des droits humains dans la communauté, parce que la façon dont je vivais ne me plaisait pas, donc il était très important que je milite aussi avec d'autres personnes pour améliorer la vie de quotidien des Congolaises.
Justement, on va en parler, vous restez avec nous, nous allons évoquer les grands sujets qui vous mobilisent, hein, que ce soit le droit à l'avortement, l'évolution des codes de la famille, le cyberharcèlement dont vous faites l'objet parfois, les pressions diverses aussi, la place des femmes en politique, mais aussi dans la police, dans les instances judiciaires. On se retrouve juste après la rappeuse Jessie B de Brazzaville chez 8 milliards de voisins.
J'ai pas besoin de phonèmes, mais du crédit tous les jours, ça pomme. J'avance sans reculer, tu me traites comme un bébé sans te mentir, chérie, ça pomme. Ne sois pas étonné que je prenne de l'avance, car tes je t'aime m'ont laissé des pannes. À 5h du mat, il fait froid, tu sais. J'ai Mike et Lisa qui sont chauffes. Mato, tout est noir dans mon cœur, tu sais. Bekabanja, Nibaturi, Timarambandi. Amame, Bekabanja, Nibatala, Bekakenanyandi. Tu le sais, depuis qu'ils ont cassé les côtes, ils se croient au sommet. Et certains de se monter beaucoup dans ton rap, mais le succès s'en moque. Et le succès s'en moque. Tu parles de la concu c'est quoi? Tu parles de la concu c'est qui? Tu parles de la concu c'est toi? J'ai mes bails dans mon coin, la grosse tête dans mon jeu. Je fais sur une prod et je plane sans en prendre. J'ai plus le temps, je suis pressé, maintenant tout est précis. Sans que la pression monte, certains m'apprécient. Je sens que la pression monte, certains m'apprécient. Je sens que la pression monte, certains m'apprécient. Enchanté, moi c'est Jesse B. Tu t'en rappelles pas, pourtant moi aussi. J'ai deux bras à ici, tout est bien. La musique est bonne et bien moi aussi. Excusez-moi, je t'ai déjà vu quelque part. Tu t'en rappelles pas, pourtant moi aussi. Moi aussi, ah ouais, moi aussi, ok. Enchanté, moi c'est Jesse B. Tu t'en rappelles pas, pourtant moi aussi. J'ai deux bras à ici, tout est bien. La musique est bonne et bien moi aussi. Excusez-moi, je t'ai déjà vu quelque part. Tu t'en rappelles pas, pourtant moi aussi. Moi aussi, ah ouais. Allô, t'es où? Je te vois pas, tu m'appelles en fit avec toi, je me vois pas dans ça. Je suis bien sur ma FIFA avec le King and Wing, le gars toujours frais et il sait danser. Le gars n'est pas si moche que si, mais pas si moche que si, sort les mailles dans son caisse. Je pousse comme Evèche, non, je suis pas ta réponse, donc allez-y, posez-vous des questions. Enchanté, Thérèse, ce genre de sang les intéresse. Carte sous table est mis en terrasse, j'ai visionné tes rêves, j'ai vite compris ce qui t'intéresse. Danger s'il s'occupera direct, le fit n'est pas terrible. Et beaucoup de potes m'ont déçu, j'ai la tête dans mon bol de ma dessous. Est-ce que je suis une fille assez décente? Et c'est le demande ira l'en dessus. Enchanté, moi c'est Jesse B. Tu t'en rappelles pas, pourtant moi aussi. J'ai deux bras à ici, tout est bien. La musique est bonne et bien moi aussi. Excusez-moi, je t'ai déjà vu quelque part. Tu t'en rappelles pas, pourtant moi aussi. Moi aussi, ah ouais. Moi aussi, ok. Enchanté, moi c'est Jesse B. Tu t'en rappelles pas, pourtant moi aussi. J'ai deux bras à ici, tout est bien. La musique est bonne et bien moi aussi. Excusez-moi, je t'ai déjà vu quelque part. Tu t'en rappelles pas, pourtant moi aussi. Moi aussi, ah ouais, moi aussi, ok.
Encore une qui n'a pas sa langue dans sa poche, Jesse B de Brazzaville, en direct chez 8 milliards de voisins sur RFI. Aujourd'hui, être militante et féministe sur le continent africain avec trois femmes qui sont dans le studio de RFI et qui sont de passage à Paris. Et bien sûr, vous avez la parole, les voisines. Dites-nous quels sont les sujets les plus urgents pour les droits des femmes dans votre pays. 33 7 64 45 51 41. Bénédicta Aloakeno, vous êtes béninoise. Hein, je voudrais qu'on parle de la loi sur la dépénalisation de l'IVG qui a été promulguée. En fait, elle a été promulguée en 2021, en décembre 2021. Elle autorise l'avortement jusqu'à 12 semaines. À la demande de la femme enceinte lorsque la grossesse est susceptible d'aggraver ou d'occasionner une situation de détresse matérielle, etc. Il y a eu le décret d'application qui vient tout juste d'être adopté ce mois-ci, c'est-à-dire un an et demi après la promulgation de la loi. Il y a eu de fortes résistances, notamment de l'Église catholique. Vous, en tant que femme militante, c'est un sujet qui vous tenait à cœur?
Bien sûr, c'est tout naturel, c'est un sujet qui me tenait à cœur, qui me tient encore à cœur parce que autour de moi, chaque jour, des femmes meurent des causes de l'avortement clandestin. Et donc, l'avortement sécurisé, c'était non négociable d'avoir l'accès à l'avortement sécurisé, mais au-delà d'avoir un décret d'application qui précise les modalités d'accès à ce droit-là aujourd'hui. Et la loi de 2021, du 20 décembre 2021, était pour nous un ouf de soulagement. Et le décret d'application également, parce qu'aujourd'hui, au moins, on sait que les femmes en République du Bénin ont ce droit-là, ce n'est plus pénalisé. Et au-delà d'avoir ce droit-là, la priorité aujourd'hui, c'est comment faire pour qu'on puisse vraiment accéder. Quel est le coût quel est...
dans les centres de santé.
Voilà, quels sont les centres habilités à donner le service, c'est quoi le personnel et comment on fait.
Ça, c'est autant, toute la question de l'accès à l'information pour les femmes, hein, sur leurs droits, finalement.
Exactement, mais également pour l'État, qu'est-ce qui est mis en place pour que ce décret-là soit vraiment applicable. Parce que c'est bon d'avoir un décret d'application, mais le décret d'application, c'est pour appliquer quoi si le plateau sanitaire, par exemple, n'est pas en place pour pouvoir faire... participer, faire accéder aux femmes l'accès à ce droit-là. Donc, autant de questions, mais ça reste vraiment une préoccupation majeure pour moi en tant que féministe béninoise.
Ouais. Oui. Finalement, ce que vous soulevez aussi, bien au-delà de la question de l'avortement, c'est le décalage entre des textes hein, qui sont bien souvent présents dans vos pays respectifs. Je ne parle pas de l'avortement, mais plus généralement des droits des femmes. Hein. Oui. Et puis ensuite, de l'application finalement des droits des femmes. Par exemple, Désirée Bellem, vous, sur la situation du handicap, il y a des textes qui disent que les enfants porteurs en situation de handicap ont droit à la scolarisation, etc. Dans la réalité, il y a eu, notamment il y a quelque temps, un débat sur la carte d'invalidité hein, pour les personnes à mobilité réduite, ce qui est votre cas. En réalité, au Burkina Faso, il n'y a que 4% ou moins de 5% des personnes qui ont cette carte et qui pourtant donne droit à une protection.
Oui. Effectivement, après la ratification de la Convention des systèmes des Nations Unies sur les droits des personnes handicapées, la CDPH, le pays a voté une loi, la loi 012 de 2010, portant protection et promotion des droits des personnes handicapées.
Elle ne date pas d'hier, donc. Hein.
Voilà, dans ces droits et dans ces textes de loi, ça donne droit à la santé, à l'éducation. Mais pour accéder à ces droits, il faut avoir la carte d'invalidité. Et cette carte aussi, elle n'est pas octroyée par n'importe qui. Il faut un certificat médical qui atteste l'handicap d'abord avant de joindre ça à des dossiers pour pouvoir faire la carte d'invalidité. Et ce certificat médical est délivré par un médecin légiste qui n'est pas dans tous les pays, dans toutes les villes.
Est-ce que les femmes ont encore plus de difficultés?
Très de difficultés pour l'avoir.
À récupérer cette fameuse carte d'invalidité.
À avoir d'abord le certificat médical. Puisque les médecins légistes ne sont pas partout, dans toutes les villes. Mm-hmm. Donc, il faut parcourir une grande distance pour avoir. Même en centre-ville, il n'y a que deux centres de santé à Ouagadougou qui délivrent le certificat médical. Mm-hmm. C'est le premier document qu'il faut avoir pour joindre avant d'accéder, d'avoir la carte d'invalidité qui va maintenant te donner droit à ça. Mm. Mais tu auras la carte, mais ce n'est pas sûr que tu auras droit.
Oui, c'est ça.
Au service.
Les décalages se poursuivent ensuite dans la réalité quotidienne.
Dans la réalité quotidienne, due aux infrastructures qui sont là, et les équipements techniques qui sont là, et la situation géographique des personnes handicapées à l'accès à l'éducation, à la santé.
Grâce à ce qui manque là, c'est toute la question de faire savoir quels sont les droits des femmes, mais ensuite d'avoir accès. Est-ce qu'il y a eu, puisque chez vous en RDC, mais pas seulement en RDC, il y a la question des violences basées sur le genre, hein, la question des violences sexuelles. Est-ce que vous estimez les unes et les autres qu'il y a eu quand même une forme de MeToo en Afrique, c'est-à-dire une mobilisation massive des femmes sur les réseaux sociaux? Quand on prend par exemple le cas du Cameroun, où il y a eu récemment l'arrestation, le placement en détention provisoire de l'homme d'affaires camerounais Hervé Bobda, qui est accusé par de nombreuses femmes de viol, d'agression sexuelle. Il y a eu un hashtag, vous l'avez reçu sur vos réseaux sociaux?
Bien sûr, et je l'ai utilisé.
Stop Bobda,
oui. Et je l'ai bien utilisé.
Dans vos pays respectifs?
Oui.
Pourquoi vous l'avez utilisé, vous, alors que vous êtes au Bénin?
Mais parce que c'est ça la force des réseaux sociaux aujourd'hui. Nous nous mobilisons en ligne en tant que féministes de différents pays. Nous sommes unis en ligne et ça donne plus de force à notre combat. Nous sommes plus puissantes et le message passe encore plus vite et plus loin. Donc, il n'y a plus de barrières de position, plus de barrières géographiques pour mener ensemble les combats. Et c'est pour ça, en fait, moi, personnellement, j'ai porté ce hashtag parce que je sais qu'ensemble, ça pouvait changer quelque chose et ramener la justice pour toutes les femmes qui subissaient de ces violences sexistes et sexuelles.
Mais aussi, à part ça, il y a le fait aussi que porter ces combats-là, ça donne encore plus de repères à d'autres femmes qui n'arrivent pas à dénoncer les cas des violences sexuelles. Et et dire que quand il y a un homme d'affaires qui est arrêté parce qu'il a commis un viol, et donc les autres femmes qui subissent ce genre de situations vont quand même aussi se sentir aussi avoir un peu plus de force pour dénoncer les cas de violences sexuelles et des viols.
Alors oui. Déjà, comme vous dites, il faut dénoncer, il faut avoir une assistance juridique. Hein. Vous êtes juriste, vous êtes bien placé pour le savoir, Gracias Kimanja. Mais dans de nombreux pays, la dénonciation des violeurs peut se retourner contre les femmes également.
Très souvent et encore surtout en RDC. En RDC, il y a un système où quand une femme défenseur de droits humains milite pour la dénonciation de cas de viol, il y a un phénomène chez nous de maison de tolérance et tout ce qui est comme sexe de survie, le proxénétisme et tout. Et c'est un réseau où il y a des gens que je vais taire le nom ici, qui sont tout autour derrière et ces gens-là ont du pouvoir. Et c'est là fait à ce que les femmes qui les militantes qui essayent de dénoncer ces réseaux et faire face à ces réseaux-là, elles sont également violées. On a eu plusieurs cas des militants de droits humains qui ont été violés pour dire ben bon, et toi tu dénonces et là maintenant tu es violée et après tu dois te taire, madame. Et donc tout ça, ce sont des questions sur lesquelles des questions qui existent par rapport à tout ce qui est violence de droits de la femme. Aujourd'hui, effectivement, en Afrique, il y a des mouvements des femmes qui se sont levées contre les violences sexuelles et on continue à faire et à s'élever contre les violences sexuelles. Mais la question qui se passe chez nous, la question de guerre, la question de viol comme arme de guerre, ce sont des questions qui persistent et qui, la situation dans laquelle nous vivons fait à ce que tous les efforts que les femmes ont faits pour lutter contre les violences sexuelle, c'est comme si c'était réduit au néant par rapport à cette persistance-là des violences sexuelles. Aujourd'hui, dans ma ville, il y a plus de 500 000 déplacés internes et tout, c'est des questions de proxénétisme, des viols. Lorsque les femmes vont à la recherche de bois d'échauffe, ce sont des questions qui sont encore très récentes et qui s'aggravent du jour le jour.
C'est pareil au Bénin aussi. Hein. Au Bénin aussi, je pense que ce retour-là est totalement effectif. Des femmes qui dénoncent et qui sont attaquées. Aujourd'hui,
qui passe de victime à coupable.
Exactement. En fait. Et nous avons aujourd'hui le code du numérique au Bénin qui est comme une tempe sur la tête des féministes qui osent s'exprimer en ligne, qui osent aussi afficher ou dénoncer en ligne.
On va en parler du cyberharcèlement parce que c'est une vraie question pour vous. Les pressions qui sont exercées sur vous aujourd'hui se font essentiellement en ligne. Mais il y a des auditrices qui nous appellent, des voisines. Très on va les écouter. Hein, vous êtes d'accord?
Ok, d'accord.
Vous nous appelez au 33 7 64 45 51 41. Écoutez d'abord le message qui a été posté par cette voisine à Brazzaville. Écoutez-la.
Bonjour, je suis Benori, j'appelle du Congo Brazzaville. Je suis née rebelle. Je pense qu'avant même de mettre un mot sur mes émotions, j'étais féministe. Je suis défenseur des droits humains et j'aborde souvent des questions relatives aux droits des femmes et de l'enfant. Ce qui suscite énormément de réactions violentes, ça peut partir du mépris à la haine. Cette année, j'ai choisi un thème que j'aborde souvent avec tout le monde, c'est la dot. Un sujet très sensible chez nous et ce que j'ai constaté de difficile et d'aberrant, c'est que les femmes vont plus défendre les abus, en fait elles vont légitimer les abus qu'elles subissent des hommes. Et cela ne m'arrête pas, je continue à parler autour de moi parce que j'en ai besoin et je pense qu'il faut toucher le maximum de monde. Alors bonne journée à vous et force à l'équipe de 8 milliards de voisins.
Force surtout à nos trois invités aujourd'hui. Merci en tout cas pour ce message du Congo Brazzaville. Force à Bénédicta Lokenou, à Gracias Kibanja, à Désiré Bellem qui sont là, qui sont venus de leurs pays respectifs et qui portent aussi la voix des femmes pour plus de droits pour les femmes. Vous entendiez ce témoignage de cette voisine qui dit qu'elle reçoit des messages de haine parce que elle dit clairement la couleur, elle est née rebelle.
Et oui.
Oui.
C'est des réalités aujourd'hui que toutes les féministes d'Afrique, toutes les féministes africaines qui osent parler, qui osent s'affirmer féministes, malheureusement, vivent. Les discours de haine, c'est un peu devenu un quotidien pour nous. Il n'y a pas ce jour-là, il n'y a pas...
Qu'est-ce que vous subissez comme menace sur les réseaux sociaux, Bénédicta?
Alors, on subit beaucoup. Déjà, les discours de Rennes. En 2022, moi, j'ai été ciblée particulièrement après avoir mené une campagne avec mon organisation, la Fondation des Jeunes Amazon pour le Développement. On a lancé une campagne contre le cyberharcèlement des filles et des femmes et pour porter un manifeste, le manifeste Internet sans peur aux dirigeants des plateformes pour l'inclusion des filtres de langue dans les formats pour pouvoir mieux contrôler les commentaires. Parce que chez nous, les personnes aujourd'hui qui nous harcèlent, qui portent ces messages-là, ont changé de stratégie et utilisent les langues. On peut utiliser le nushi pour vous insulter. Et le robot va vous dire que c'est conforme aux politiques de Meta et donc que le commentaire ne sera pas supprimé. Et donc, on a pu mobiliser près de 200...
D'autant plus que vous ne comprenez pas forcément le nushi.
Oui.
C'est pas votre langue.
Exactement. Mais il y a d'autres langues. Le fond, par exemple, de chez moi, il y a peut-être le minan. Il y a vraiment ces langues. Et donc, nous avons collecté près de 200 voix des filles qui ont dénoncé. Et juste à la fin de la campagne, on a remarqué que le hashtag bloque-le a été repris avec des photos de notre logo et des photos de moi. Vous pouvez voir ma tête et le corps nu d'une autre femme qui était montée. Donc, ces deepfakes-là ont circulé sur les réseaux pendant près de 9 mois avec des menaces.
Vous avez porté plainte, hein?
Oui.
Mais qui a payé votre avocat?
Ben, ça a été un fonds d'urgence que nous avons sollicité. Il n'y avait personne, c'était Urgent Action Fund que nous avons sollicité. Ça a été également l'appui de Féministes en Action pour faire aboutir aussi la procédure. Ça a été aussi la mobilisation. Oui.
Il y a une personne qui a été condamnée.
Il y a une personne qui a été condamnée pour 5 ans d'emprisonnement. Il est en train de purger actuellement.
À quel titre? Pour
avoir commis une tentative d'extorsion de fonds et un cyberharcèlement par voie électronique. Voilà.
Désirée Bellem, chez vous, au Burkina Faso, est-ce que le militantisme est plus difficile dans le contexte politique actuel?
Bon, actuellement, en tout cas, nous ne sommes pas inquiétés par ça, nos activités, puisque le contexte nous sommes dans une situation, dans une zone où il y a un peu de sécurité. Donc, ça fait que nous arrivons présentement à mener nos activités. Peut-être celles qui sont dans les zones d'insécurité. Et là, ils sont en déplacement dans les zones où il y a plus de sécurité. Et nous ne pouvons pas accéder dans ces zones-là pour faire nos sensibilisations pour les droits des femmes handicapées.
On prend en ligne une autre voisine qui souhaite s'exprimer sur les droits des femmes, Rufina, qui nous appelle de Dakar. Bonjour Rufina.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes spécialiste en sciences de l'éducation et surtout vous êtes présidente du réseau des femmes scientifiques et ingénieures d'Afrique. Vous avez dit au standard à Delphine, pour moi la promotion des filles et des femmes est essentielle dans les filières et carrières scientifiques. Il y a vraiment un plafond de verre à briser. Est-ce que ça fait partie pour vous des sujets importants et urgents, Rufina?
Tout à fait. Merci pour l'invitation. Je suis tout à fait engagée depuis plus de 20 ans et nous nous battons pour que ce plafond de verre puisse être brisé. Mais ce n'est pas facile.
Merci à vous, Rufina, si c'est le mot de la fin. Adja nous appelle également de Dakar. Bonjour Adja.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes une femme syndicaliste et c'est très rare dans le secteur où vous êtes, hein, parce que vous êtes secrétaire générale du syndicat autonome des travailleurs du rail. Vous êtes une des rares femmes dans ce milieu-là, Adja.
Effectivement, la première, bon, c'est un milieu purement ouvrier et à caractère masculin, il faut le reconnaître, et c'est des hommes qui ont porté ma candidature à la tête de ce syndicat-là.
Ouais. Alors, bien sûr, on n'a pas le temps de revenir sur tout votre parcours. Je sais que vous vous êtes déjà exprimé dans notre émission, mais ce que vous avez dit à Delphine au standard, c'est que pour vous, il y a un combat qui vous tient à cœur, c'est le partage de l'autorité parentale, parce qu'à l'heure actuelle, c'est l'homme qui a l'autorité parentale. Pourquoi ça vous tient à cœur, Adja?
En fait, ça, c'est un problème au niveau de notre code de famille. Au niveau de notre code de famille, le problème que nous rencontrons aujourd'hui, c'est que ce code-là date de 1966. Alors, 1966 en 2004, vous voyez, en 2024 où nous sommes, les réalités socioculturelles ne sont plus les mêmes. Alors, la puissance paternelle dédiée à l'homme, les féministes et les mouvements de femmes veulent aujourd'hui une révision. On ne demande pas à remplacer l'homme, mais juste que cette partie où on mentionne puissance paternelle, qu'on y mette, par exemple, administration de la famille, ce qui va permettre, par exemple, à la femme aussi de s'impliquer. Aujourd'hui, le blocage le plus patent que les gens voient en cas de divorce, parce que de plus en plus, les divorces sont de plus en plus, on voit plus en plus de divorces. Vous voyez une femme qui élève tout seul son enfant. Arrivée à un certain moment, elle a besoin d'un certain nombre de papiers, on lui demande la signature du père. Imaginez un père qui a été absent pendant toute l'éducation de l'enfant, et un beau jour, on a besoin de sa signature. Vous voyez cette difficulté que cette femme-là a pour avoir la signature de l'homme.
Et merci de soulever ce cas concret. Je peux vous dire que les féministes qui sont autour de la table dans le studio de RFI hochent la tête et voient très très bien de quoi vous parlez. Juste une petite question, 13% de femmes dans le gouvernement d'Ousmane Sonko. Vous êtes déçue ou pas, vous, en tant que syndicaliste et femme au Sénégal?
Comme tout le monde, nous avons constaté. Et comme nous avons constaté, certaines femmes ont alerté et là, on attend.
Très bien. On constate et on attend. Merci à vous en tout cas de nous avoir appelés. On arrive au terme de cette émission. J'aimerais que vous nous disiez toutes les trois, quel message vous aimeriez faire passer aux voisines ou aux voisins qui nous écoutent à l'heure actuelle sur le continent, alors qu'on a cette réaction, cette tentative de retour en arrière, qu'on appelle aussi le backlash, et qui est extrêmement présent sur les réseaux sociaux. Bénédicta.
Alors, je dirais,
en quelques mots.
Oui, je dirais aux voisines que c'est maintenant plus que jamais qu'il faut investir dans les luttes féministes et que face à ces nouvelles menaces-là, nous devons rester engagés ensemble et porter nos voix plus fortes, plus puissantes. Merci.
Gracias, Kibanja.
Ok, merci les voisins et les voisines qui sont en train de nous écouter. Comme Bénédicta vient de le dire, il est temps. Il est temps qu'on continue à militer pour la promotion de droits de femmes. Il est temps qu'on continue à lutter contre le mouvement anti-droit qui veulent s'élever et nous remettre encore en arrière. Il est temps aussi de parler de questions de paix et de sécurité. Il est temps de travailler pour la cohésion sociale du monde.
Ouais, je sais que vous m'aviez dit aussi que vous aimeriez qu'il y ait plus de femmes dans la police en RDC.
Effectivement, plus de femmes dans la police,
dans la
défense.
On parle de la représentation politique, mais finalement, police est très opérationnelle.
Effectivement, merci beaucoup.
Mais merci à vous d'être venu, Désirée Bellem, pour vous, votre message.
Mon message de fin est que vraiment cette lutte des féministes doit continuer et que je pense que la femme doit lutter parce que les femmes handicapées sont les enfants des femmes. Et c'est ces femmes qui doivent les protéger. Donc, plus d'inclusion dans les actions et les projets et les programmes de développement pour le bien-être des femmes et des enfants handicapés.
Pour les voisins qui nous écoutent, les voisins, j'ai bien dit, les hommes, qu'ont-ils à y gagner de votre militantisme?
Ils gagneraient à militer pour le bien des personnes handicapées, puisque c'est une loi qui... Les lois des personnes handicapées sont des lois qui protègent et la femme handicapée et les hommes handicapés. Et le handicap, aujourd'hui, c'est moi, demain, peut-être, c'est toi.
Effectivement, et par exemple, nous en RDC, je suis parmi les activistes qui prônent plus sur l'inclusion et aussi la participation des personnes vivant avec handicap parce que je suis là, elle est là, c'est ma sœur, c'est mon frère et tous nous devons travailler et avoir un monde plus juste et plus accessible à tout le monde.
Et c'est à la société, aux sociétés de Sommeville, de se mobiliser. Merci infiniment toutes les trois, Bénédicta Lokenou, Gracia Kibanja, Désirée Bellem, merci d'être venue dans le studio de RFI à l'occasion de l'initiative Féministe en Action qui vous a mené jusqu'à Paris. Vous restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission, surtout les voisins et les voisines. Dans quelques instants, on retrouve la communauté des mondo-blogueurs et mondo-blogueuses, bien sûr, avec Camille Deloche qui partage avec vous les meilleurs articles. Ça sera juste après Orange Blossom, à retrouver aussi dans la playlist de RFI. يا حبيب في جميع الناس اطلب من الله ولا تمدش ايدك للناس خلي مع الله يا حبيب في جميع الناس اطلب من الله ولا تمدش ايدك للناس يا اللي غوى حب نفسك اللي غوى حب نفسك المثل بيقول sommes en direct sur RFI, mais bien sûr, vous pouvez réécouter toutes nos émissions en podcast, en replay, comme on dit sur l'appli RFI Pure Radio. Mondoblog chez les voisins maintenant. Bonjour Camille Deloche.
Bonjour Emmanuel.
Vos coups de cœur à lire sur mondoblog.org, la plateforme des blogueurs, des blogueuses francophones. Et cette semaine, Mondoblog parle tourisme et marketing territorial, c'est ça ?
Exactement.
Qu'est-ce que c'est exactement ?
C'est ce dont parle Badal Fomo, une blogueuse camerounaise. Et je vous propose de l'écouter tout de suite, nous dire pourquoi elle a eu envie d'écrire ce billet.
Salut, salut, je suis Badal Fomo, camerounaise. Et je blogue sur badalfomo.mondoblog.org. En regardant une émission à la télé qui parlait de la dot et qui magnifiait de très beaux endroits, j'ai vraiment eu envie de voyager, de parcourir des destinations, de visiter des sites. Et aussi, j'ai eu envie de parler du Cameroun et de l'Afrique pour dire qu'en réalité, on ne fait pas assez de publicité sur tout ce qu'il y a de beau à voir. On ne magnifie pas assez nos sites touristiques. Et je me suis également dit, pourquoi pas parler de marketing territorial ? Parce qu'en réalité, je crois qu'on devrait tous le faire en Afrique, même chez moi au Cameroun d'ailleurs. C'est la raison pour laquelle j'ai écrit ce billet.
Voilà. En lisant l'article, on comprend que le marketing territorial désigne la manière dont les pouvoirs publics utilisent les techniques de la communication pour promouvoir les régions, les villes, afin de les rendre plus attractives.
Ouais, alors quel est l'objectif de ce marketing territorial ?
Ce que nous dit Badal, c'est que cette stratégie marketing permet aux pays de mettre en avant leurs atouts pour attirer des investisseurs, des talents et développer le tourisme dans un objectif de développement.
Beaucoup de pays pratiquent le marketing territorial ?
Oui, de plus en plus de pays. Cette démarche est vraiment dans l'air du temps. Badal Fomo donne pour exemple la France ou le Rwanda et dit combien ces pays mettent tout en œuvre pour se rendre hyper attrayants.
Hyper attrayants, mais et que font-ils concrètement ?
Ils font des efforts pour améliorer leur image. Ils mettent en avant la richesse de leur culture, la propreté de leur ville, la beauté de leur paysage. Et ils développent aussi des infrastructures et des services pour accueillir des visiteurs. Comme le dit Badal, en un mot, ces pays font tout pour donner envie d'y venir et d'y revenir.
Et donc visiblement, les blogueurs sont très sensibles à cette démarche, pas seulement Badal.
Ouais, ouais. Pour Badal, c'est une attitude super positive, gagnante. Elle évoque par exemple les Parisiens. Où qu'ils soient dans le monde, lorsqu'ils disent « I am from Paris », les gens vont immédiatement répondre « Paris, nice, Tour Eiffel, Champs-Élysées ».
Ouais, c'est vrai.
Et Badal fait remarquer que c'est pas tout à fait la même chose lorsque vous dites « I am from Douala ou Yaoundé ». Pour elle, la plupart des gens ont envie de visiter Paris au moins une fois dans leur vie, parce que Paris vend du glam, du chic, du rêve. Et ça, c'est une image que tout le monde a en tête. C'est du marketing territorial réussi.
Et alors, selon la blogueuse Badal, quelle image vend par exemple le Rwanda ?
Alors, on découvre, en lisant l'article, on découvre que le Rwanda vend sa vitalité, sa créativité, son développement, bien loin de la période tragique du génocide des années 90. Et de fait, c'est aujourd'hui l'un des pays les plus dynamiques de l'Afrique. Du point de vue touristique, le pays séduit par ses paysages verdoyants qui font partie intégrante de l'Afrique des Grands Lacs.
Alors, est-ce que Badal a visité le Rwanda ?
C'est son rêve.
Ah !
Le Rwanda est, je cite, « mon pays africain de cœur, je rêve d'y aller, même si mon séjour ne dure qu'une journée ». Pour l'anecdote, Badal est fan de foot et elle n'a pas manqué de voir la mention « Visite Rwanda » inscrite sur les maillots des joueurs du Paris Saint-Germain. Un partenariat apparemment efficace, exemple type de marketing territorial.
Les autres pays africains, donc, est-ce qu'ils ont encore du chemin à faire avec cette stratégie de marketing de soi, finalement ?
Clairement, oui. C'est justement ce que déplore Badal. Et aussi Yannick, un blogueur français passionné par le continent africain, dont l'article est intitulé « Un voyage en Afrique, non merci ».
Et qu'est-ce qu'il dit ?
Son constat, c'est que l'Afrique ne fait pas rêver. On ne pense pas à ce continent comme une potentielle destination de vacances. Yannick a demandé à de nombreuses personnes quelle était leur destination préférée dans l'absolu ? Eh bien, aucun n'a cité un pays africain.
Et pourquoi, selon lui ? Ils sont cash, comme
ouais,
vos blogueurs.
Oui, carrément, carrément. Comme Badal, Yannick dit que tout est une histoire d'image et de communication. Le tourisme est un business et beaucoup de pays africains ont des atouts pour développer une économie touristique. Yannick évoque le soleil, la nature préservée, les espèces animales rares, les cultures ancestrales. Il en faut peu pour inverser la tendance.
Et donc, on trouve tout ça, mais bien mieux en Afrique. Hein, ça nécessite quand même, d'une certaine manière aussi, une volonté politique.
Une vraie volonté politique, exactement. D'ailleurs, lorsque Yannick évoque l'Afrique aux personnes qu'il a interrogées, il constate qu'elles répondent toutes la même chose. L'Afrique, j'ai rien contre, mais je n'y pense pas. Quant à Badal, elle évoque le Cameroun, son pays, en disant qu'il a tout pour être attractif. Il présente une mosaïque de paysages et de cultures qui lui vaut le surnom d'Afrique en miniature. Mais elle conclut, je cite, « Pour dire vrai, je ne sais même pas quoi dire sur mon propre pays ».
L'attractivité territoriale de l'Afrique, hein, un terme à retenir, un dossier à suivre en tout cas, et surtout direction mondoblog.org ou bien notre page 8 milliards de voisins sur laquelle on a mis le lien, hein, vers mondoblog.org sur rfi.fr. Nous donnons la parole maintenant à un blogueur de talent sur les funérailles de sa grand-mère, son dernier voyage. C'est un peu comme si vous y étiez, les voisins, et c'est pour ça que vous avez choisi cet article-là, Camille Deloche.
Oui. Direction Ouaga, comme on dit. Ouagadougou au Burkina Faso pour retrouver Boukari, 35 ans, journaliste et blogueur depuis plus de 10 ans. Dans son blog, le messagerdafrique.mondoblog.org, il évoque la vie comme elle va au Burkina. Aujourd'hui, Boukari part au nord du pays, dans le village familial, pour se rendre aux funérailles dansantes de sa grand-mère. C'est comme ça, au Burkina, on se souhaite de joyeuses funérailles. Les enterrements sont vus comme une dernière fête. À chaque pays, ses rites funéraires. Et c'est ce que nous raconte Boukari. On le suit avec ses parents, ses amis, le village, qui tous se réjouissent de l'entrée de sa grand-mère au paradis.
Bonjour, moi c'est Boukari Ouédraogo, j'habite à Ouagadougou au Burkina Faso et mon blog c'est le messagerdafrique.mondoblog.org. Dans mon billet audio, je vais vous parler de la cérémonie de funérailles organisée pour ma grand-mère chérie, Yaba. La personne la plus importante de ma vie, ma grand-mère Yaba, est morte. J'ai quitté Ouagadougou sur le champ pour me rendre à Gassongo, son village natal, dans le département de Tikaré. Lorsque je suis arrivé, il y avait déjà beaucoup de monde. L'ambiance était festive. Habituellement vide, la cour de Yaba ne pouvait accueillir tous ceux qui se présentaient pour honorer sa dépouille. Une troupe de chanteuses tapaient en rythme sur des calebasses, assises sur des coussins et remplissaient l'air de chants. C'était la fête. Pourtant, Yaba est morte. Mais ce départ devait être une dernière fête. C'est la coutume. On accompagne la personne âgée qui s'en va pour son voyage vers l'autre monde. L'ambiance était conviviale. On m'invita à la voir. Son corps était exposé. Moi, je n'avais jamais vu un mort. Elle était couchée sur une natte, la tête rasée, elle était belle, elle semblait dormir. Plus la nuit avançait, plus la cour devenait petite. Les personnes arrivaient d'un peu partout. Certaines étaient venues de loin. Elles avaient fait la route depuis le matin. La musique redoublait d'intensité. Les chanteuses vantaient les qualités humaines de ma grand-mère, gardienne des traditions et modèle d'intégrité. Les plateaux de riz circulaient de main en main et se posèrent autour des groupes. Un vieil homme m'interpella pour me parler d'un bon souvenir de Yaba. Les gens chantaient, dansaient, se taquinaient. Ainsi, la dépouille de ma grand-mère ne demeurait pas seule. Elle était veillée et célébrée. Les chants de louanges durèrent jusqu'au soleil du petit matin. L'enterrement était prévu un peu plus tard dans la matinée. Plus l'heure approchait, plus la foule grossissait. Une heure avant la cérémonie, le cercueil de Yaba fut exposé sous un grand arbre. De nombreux villageois l'entourèrent. Après les incantations, on demanda à des jeunes de transporter le cercueil jusqu'au cimetière. Ils se bousculèrent pour le faire. Chacun voulait pouvoir dire qu'il avait porté le cercueil de ma grand-mère. Le cimetière n'était pas loin, mais cela prit du temps. Tous les 50 mètres, on s'arrêtait, on chantait, on dansait et on lançait des yoyos. Les jeunes qui portaient le cercueil se balançaient au rythme du tam-tam. La foule dansait sous une forte canicule. C'était une fête. Les larmes du deuil sont réservées pour quand on est seul à la maison. Le temps de la mise en terre était venu. La tombe de Yaba avait été creusée la veille. Le cercueil fut minutieusement placé et on le recouvrit de terre. C'était la fin. Je ne verrai plus Yaba. Son âme avait rejoint celle de ses ancêtres. La troupe de danse du village continua de danser toute la nuit suivante. Nous bûmes du café, de la liqueur et du doulou. Koumaye la main, koumaye la main, koumaye la main ya.
Désiré, vous pouvez continuer la chanson si vous voulez.
Non. Je ne connais pas la chanson. Vous connaissez ça pas la rire. Que la mort a dit de ne plus faire, de ne pas faire du mal à son enfant après.
C'est ça, c'est voilà. Ce que dit la chanson. Ne faites pas de mal à mes enfants.
Et bien sûr, retrouvez le papier de Boukhari, hein, l'article sur mondoblog.org. Avant de nous quitter, Camille, il y a un article fraîchement publié sur mondoblog que vous nous conseillez de lire aussi.
Oui, celui de Nidi Dave, haïtien de sang et de cœur, comme il le dit lui-même. Il vient de publier un article sur son pays, intitulé « Dans le tourbillon du pouvoir et du désespoir ». Il y évoque la situation dramatique d'Haïti, minée par la violence des gangs, la pauvreté et la corruption, et qui pâtit depuis des années d'une instabilité politique chronique. Un article très fort, à la fois cri du cœur et coup de poing, à découvrir sur mondeblog.org.
Mondeblog.org, c'est ici que vous retrouverez tous les articles des blogueurs de RFI. Merci Camille Deloche d'être venue
Emmanuel.
Chez les voisins pour en parler. Et on se retrouve jeudi prochain pour découvrir de nouveaux articles dans Mondeblog chez les voisins. Merci à l'équipe, Juliette Brault, Delphine Cachin, Tom Malky, Romain Dubrac. Toutes nos émissions sont à réécouter si vous le souhaitez en podcast. Et demain, 8 milliards de voisins, Laurence Garcia vous donne la parole, les voisins et les voisines. Comment sont traitées les personnes âgées dans votre pays? Vous pouvez nous appeler au 33 7 64 45 51 41. À demain.
C'était 8 milliards de voisins qui vous a été proposé par le groupe Azalai Hotels, leader régional de l'hôtellerie en Afrique de l'Ouest.